Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore dans ta présence. Tu es notre Dieu, tu es la source de notre vie, tu es notre existence. Nous ne vivons que par toi. Merci Seigneur parce que maintenant nous sommes au deuxième jour de cette année 2013 que tu nous as accordé Seigneur de voir par ta grâce. C'est pour cela Seigneur que nous sommes encore auprès de toi pour vouloir t'écouter. Seigneur, tu as dit que ta parole, c'est la lumière sur notre sentier. Nous avons besoin d'être éclairés par toi, Seigneur. Il y a un long voyage devant nous, une année qui est tout un mystère devant nous. Mais Père, tu as voulu que pendant ces 14 jours, dans cette paroisse de Gomaville, nous soyons encore t'écouter, te parler et toi nous parler. Parle, Seigneur, au travers de ton serviteur qui t'a déjà choisi, Seigneur, pour nous communiquer encore ta volonté cette soirée. Bénis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Voilà, nous disons encore merci au Seigneur qui nous a donné cette grâce et ces privilèges de nous retrouver encore cet après-midi, au deuxième jour de l'année, mais non seulement au deuxième jour de l'année, mais au deuxième jour aussi de ces 14 jours de prière que la paroisse a organisé à l'intention de nous tous. Alléluia. Et je reste encore convaincu qu'après ces 14 jours, les choses ne resteront pas les mêmes. Parce que le Seigneur qui nous a appelés à cela, le Seigneur qui nous invite à venir prier, il a dit lui-même, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et nous croyons que pendant ces 14 jours, puisque nous allons invoquer le Seigneur, il va nous montrer ces grandes choses, ces choses cachées que nous ne connaissions pas, mais que désormais nous allons connaître parce qu'il nous les aura révélées. Amen, amen. Et j'ai ce privilège qu'on m'a accordé d'introduire ces 14 jours. Après moi, il y aura encore de serviteurs de Dieu plus grands, plus puissants que moi qui vous parleront de la part du Seigneur. J'ai le privilège juste d'introduire et je crois que plus nous avancerons, plus le Seigneur sera encore en train de nous dire de plus grandes et de plus merveilleuses choses concernant sa volonté pour nous durant le reste de cette année. Alors pour cet après-midi, le thème ou le sous-thème sur lequel nous allons partager, c'est qu'est-ce que le réveil spirituel ? C'est que le réveil spirituel ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Autrement dit, on va tenter de donner une définition au réveil spirituel. On va essayer de décrire en fait qu'est-ce que l'on entend ou qu'est-ce que l'on devrait comprendre quand on utilise le mot réveil spirituel, quand on parle du réveil spirituel, de quoi il s'agit exactement et bien sûr en nous référant à ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet. Alors je nous propose trois portions des Écritures pour ce soir. La première portion se trouve dans Actes chapitre 1. Du 8e au 15e verset. Actes chapitre 1, versets 8 à 15. La Bible déclare, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils les regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On peut se limiter par là. Le deuxième passage, c'est dans Actes chapitre 2. Le verset 1 à 4, Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 1er au verset 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le troisième passage de base qui va nous conduire cet après-midi se trouve dans Actes chapitre 8. On va prendre du 18e jusqu'au 24e verset. Actes chapitre 8, le verset 18 à 24. Actes chapitre 8, le verset 18 à 24. La Bible déclare, « Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur leur tête. C'est pourquoi il offre de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant, « Donne-moi ce pouvoir à moi aussi. De cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, cette personne recevra l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répond, « Que ton argent soit détruit et toi aussi, tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. Ce qui se passe ici n'est pas pour toi, tu n'as pas le droit d'y participer. En effet, pour Dieu, ton intention est mauvaise. Ce que tu as fait est mal, reconnais cela et prie le Seigneur. Il va peut-être pardonner ces mauvaises pensées. Oui, je le vois, tu es rempli d'envie et prisonnier du péché. » Simon répond à Pierre et à Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, alors rien de ce que vous avez dit ne pourra m'arriver. » Parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que le réveil? Comme je l'ai dit avec ceux avec qui nous étions le matin, c'est qu'il me sera difficile de dire que voilà la définition du réveil et que c'est seulement ça et il n'y a pas autre chose. Ça sera vraiment compliqué parce qu'on ne saura pas donner qu'une seule définition au réveil. Amen, amen. C'est que je ne suis pas venu vraiment avec une définition déjà bien établie, disant que quand on parle du réveil, il faut entendre ça, 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 et c'est tout, il n'y a pas autre chose. Non, non. Mais ce que nous allons parler ce soir ou cet après-midi, c'est que nous croyons que pour donner une définition au réveil spirituel, il faudrait revenir dans la parole pour voir premièrement quels sont les effets du réveil spirituel. C'est-à-dire qu'est-ce que nous voyons se manifester autour de nous quand le réveil spirituel est là ou est produit. Ou deuxièmement, voir quels sont les objectifs pour lesquels ce réveil spirituel est accordé par Dieu. Et en regardant ses effets et alors ses objectifs aussi, c'est de là que nous tirerons en quelque sorte, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut définir en parlant du réveil spirituel, comment on peut définir le réveil spirituel. Il faudrait regarder à ses effets, mais aussi il faudrait regarder d'une autre part à ses objectifs, à ses objectifs. C'est ainsi que ce soir, le message est un peu divisé en deux parties. Premièrement, on va juste présenter quelques éléments qui conduisent vers le réveil, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on doit faire pour que nous arrivions à ce que nous appelons le réveil spirituel. Mais deuxièmement aussi, on va parler, en concluant ce message, des éléments qui manifestent ou qui témoignent du réveil spirituel. Autrement dit, quels sont ces éléments-là qui, lorsqu'on le voit, on peut dire que ça, c'est ça qu'on parle du réveil spirituel. Autrement dit, quels sont les effets du réveil spirituel? Donc, les éléments qui témoignent que réellement, il y a un réveil spirituel qui sévit, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans l'église, dans la société, ou là où nous vivons, dans la famille et partout ailleurs, quels sont les effets exacts ou précis, selon la parole de Dieu, du réveil spirituel? Alors, quels sont ces éléments-là? Le premier élément sur lequel je voudrais partager cet après-midi, il s'agit de la consécration. La consécration. Aujourd'hui, l'un des problèmes des enfants de Dieu dans cette génération, c'est qu'on ne veut pas nous consacrer au Seigneur. Se consacrer au Seigneur ne veut pas dire venir à l'église chaque jour, ne veut pas dire venir servir Dieu à l'église chaque jour. Non, se consacrer au Seigneur signifie se mettre à part pour ne vivre que pour le plaisir du Seigneur. Ça veut dire que partout où je suis, la façon dont je me comporte, ce que je fais, ça va dans le sens d'obéir à la voix de Dieu afin de lui être agréable à chaque instant et en tout lieu. Autrement dit, on ne peut pas se prétendre être consacré à Dieu si l'on vient les dimanches à l'église, mais si au courant de la semaine, dans toutes nos activités, on ne fait rien qui témoigne que nous croyons en Jésus et que nous sommes son enfant. Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre être serviteur consacré à Dieu si l'on vient pleurer ici, mais quand on est au travail et qu'il y a des fraudes qui se font, on participe aussi à cela. On ne peut pas se dire être consacré au Seigneur si lorsque nous nous trouvons dans une circonstance difficile et qu'apparemment la seule façon de sortir de cette situation-là, c'est de mentir et qu'on se met à mentir, on ne peut pas se dire être consacré à Dieu. On ne peut pas se dire être consacré à Dieu si nous arrivons dans une circonstance où nous sommes dans les besoins et qu'apparemment la seule façon de sortir de ces besoins, c'est de voler et que nous les fassions. On se trompe nous-mêmes et la conséquence est que nous finirons en enfer. La conséquence est que nous méprisons réellement le nom de Dieu. Alors je suis juste venu nous dire ceci. C'est que la première voie qui nous amène au réveil, c'est nous consacrer au Seigneur. Et la consécration, c'est que d'abord le Seigneur lui-même, c'est lui qui nous consacre à lui. À partir du jour où nous croyons en Jésus, c'est les jours, à partir de ces jours-là que nous nous consacrons à Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, qu'il dit ceci, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, ou un peuple mis à part aussi, afin que vous célébriez tout haut les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Il dit, « Vous qui n'étiez pas un peuple, il a fait de vous un peuple qui lui appartienne en propre. » C'est que depuis le jour que nous avons décidé de croire en Jésus, sans le savoir même, nous avons décidé de nous consacrer au Seigneur. Et la consécration a ses exigences. Notamment, nous devons marcher selon le principe que le Seigneur a établi. C'est consacrer à Dieu, ça veut dire ce que Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ et maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne marche plus selon le principe que moi j'établis auparavant, mais je marche selon le principe que Dieu a établi. » La Bible dit, Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, si je ne me trompe, il dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Pas les œuvres que nous avons préparées, que lui a préparées. Pas selon les règles que nous avons préparées, que lui a établies. C'est ça ce que le Seigneur a voulu faire. C'est ce que Dieu a fait depuis le début. Et cette consécration, nous devons grandir en cela tout le jour de notre vie. Plus nous avançons avec le Seigneur, nous nous rendons compte que notre niveau de consécration doit aussi grandir. Quand je suis nouveau-né et que je fais 5 ans dans le Seigneur, je me rendrai compte que la façon dont je marchais quand j'étais encore nouveau-né doit être différente 5 ans après. Mon niveau de consécration doit être aussi différent. Il est temps pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir notre cœur totalement consacré à Dieu. Parce que si nous ne sommes pas consacrés à Dieu, on ne saura pas le chercher pour voir sa volonté se manifester. Si nous-mêmes, nous ne voulons pas marcher selon sa volonté, comment voulons-nous que les autres puissent marcher selon sa volonté? Il faudra que nous commencions à marcher selon lui pour que nous soyons des instruments qu'il utilisera pour amener aussi les autres à marcher selon lui. Et le Seigneur, lui, avant même de nous utiliser pour ramener les autres vers lui, il commence d'abord par nous transformer. Les hommes disent, il y a un auteur qui a dit que devient le changement que tu veux voir chez les autres. Alléluia. Et la personne qui respecte mieux ces principes, c'est Dieu lui-même. Dieu, avant de nous envoyer pour faire son travail ou pour apporter les changements qu'il veut voir dans le monde, la personne qu'il veut envoyer, il commence d'abord par opérer ces changements en lui. De sorte que quand il envoie son serviteur et qu'il parle des changements que Dieu veut apporter dans la vie des autres, il se rassure que le serviteur qu'il a envoyé est lui-même le changement qu'il doit amener chez les autres. De sorte que quand le Seigneur nous appelle à lui, la première chose qu'il fait, il commence d'abord par nous transformer. De sorte que quand il nous donne le message à prêcher, nous devenons d'abord nous-mêmes le message que nous sortons de notre bouche. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas le message que nous prêchons aux autres. Le message que nous prêchons ne se limite qu'à notre bouche, mais quand on essaie de regarder notre vie, c'est totalement différent. C'est totalement incompatible. De sorte que les gens peuvent prêcher, on peut prêcher, on peut prêcher, mais il n'y a pas d'efficacité. Parce que quand on essaye de regarder ce que la personne dit et comment la personne vit, c'est contradictoire. Nous-mêmes, nous en sommes conscients. Quand une personne vient nous reprocher une chose que nous voyons chez lui, on ne va pas l'écouter. Quelqu'un ne peut pas venir me reprocher l'impolitesse étant lui-même impoli. Je ne peux pas l'écouter. Tu ne peux pas venir me reprocher de mentir étant toi-même un grand menteur. Ça ne marchera pas. Pour que je puisse suivre quelqu'un qui me reproche, je dois voir le contraire en lui. C'est-à-dire que ce qu'il me reproche, je ne dois pas voir en lui. Mais plutôt ce qu'il me demande de commencer à faire, je dois le voir en lui. C'est comme ça que Dieu ne peut pas nous demander d'aimer sans nous montrer d'abord l'amour. Dieu ne nous envoie pas faire quelque chose qu'il ne nous a pas montré faire par lui-même au préalable. Il est amour, c'est pourquoi il nous demande d'aimer aussi les autres. Il est un Dieu de grâce, c'est pourquoi il nous demande aussi d'être rempli de grâce. Il est un Dieu de compassion, c'est pourquoi il nous demande d'avoir compassion aussi des autres. Parce qu'il nous l'a d'abord montré en lui-même, et lorsque nous le voyons lui faire, nous le faisons aussi. Jésus n'a pas envoyé ses disciples faire ce que lui-même n'a pas fait. Il a passé 3 ans avec ses disciples, les enseignant ce qu'il doit faire, les montrant ce qu'il doit faire par lui-même, après il les a envoyés faire. De sorte qu'ils allaient faire en ayant déjà un modèle. C'est pourquoi on l'appelle même le modèle parfait. Même quand Actes des Apôtres a commencé, que les disciples sont allés prêcher, ils n'ont fait que ce que Jésus avait commencé à faire. Pourquoi? Même Luc lui-même dit, quand vous lisez le premier verset de Actes des Apôtres, il dit, dans mon premier livre, je t'ai dit, cher Théophile, en parlant du livre de l'évangile de Luc, ce que Jésus a commencé à faire et à dire et à faire quand il était sur terre. Et il dit, dans le second livre, je sais que Jésus a continué à faire et à dire, mais au travers maintenant de son corps spirituel qui est l'Église, parce que l'acte des apôtres, c'est le début de l'Église. De sorte que c'est que Pierre et tous les autres qui ont crié en Jésus en ces moments-là ont fait, ils n'ont fait que reproduire ce qu'ils ont vu Jésus faire. Mais bien sûr, selon que l'Esprit de Dieu était en train de les révéler et de les inspirer. Mais avant cela, il y a eu quelqu'un qui l'a fait. Et ce qui a fait que les gens qui les entendaient ont cru en la parole qu'ils prêchaient, c'est parce qu'ils voyaient en eux les œuvres que Jésus faisait. Parce qu'ils étaient dans un contexte difficile. Comment vous pouvez venir prêcher aux gens qui ont vu Jésus être crucifié à la croix, qu'il est ressuscité? Ils vous prendront pour des fous. Non seulement qu'ils disent qu'il est ressuscité, mais ils l'ont vu mourir et il y a une rumeur qui circule disant que les disciples ont volé son corps. Donc il n'est pas ressuscité, mais c'est un jeu qu'ils ont planifié pour vous faire croire ce qui n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que l'on voie en eux ce qu'on a vu Jésus faire quand il était vivant. Quand on le verra faire cela, on saura que Jésus est réellement ressuscité et il vit encore jusqu'aujourd'hui. Si nous voulons que les hommes à l'extérieur qui n'ont pas encore cru puissent croire que Jésus est Dieu et qu'il agit encore, il faudrait qu'ils voient en nous et au travers de nous les œuvres que nous prétendons Jésus être capable de faire. Il faudrait que Jésus continue à le faire, mais au travers de nous, puisqu'il n'est plus physiquement sur terre, mais il est là spirituellement au travers de l'Église que nous sommes. Et ça, c'est par la consécration que ça arrive. Alléluia. Alors on peut passer 14 jours, venir à l'église, sacrifier des programmes, mais si nos cœurs ne sont pas disposés à nous tourner totalement à Dieu, nous serons en train de perdre 14 jours inutilement. Mieux vaut aller faire d'autres choses que de venir passer 14 jours inutilement, plus gêner, se priver de la nourriture, ça sera inutile. Alors, en continuant, heureusement pour aujourd'hui, nous parlons de la transformation personnelle. Avant de continuer toutes choses, prions que nos cœurs soient tout entiers tournés vers le Seigneur. Sans la consécration, on ne sera que parler le réveil spirituel, mais ça n'arrivera pas. Parce qu'il faudrait que nos cœurs soient disposés à suivre totalement Jésus et à chercher à vivre et à marcher selon sa volonté. Nous pouvons vanter ou nous vantons souvent les exploits de ceux qui ont marché avec Dieu et dont les histoires sont révélées dans la Bible. Mais la seule chose, la différence ou la chose qui a amené tous ces exploits-là, c'est la consécration de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Élie, Moïse, Noé, tout ce qu'on peut citer, Pierre, Jean, Paul et toutes les autres personnes que l'on peut citer. David, pleinement sa volonté. Et l'une des confessions merveilleuses que l'apôtre Paul dit, donne, c'est dans Actes chapitre 20, le verset 24. Il repart à Jérusalem, sachant ce qu'il attendait, mais tellement que son cœur était disposé à faire la volonté de Dieu. Il dit à tous ceux qui voulaient les dissuader de rentrer à Jérusalem, il dit, je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère qui m'a été donné, celui d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit encore ailleurs dans Philippiens chapitre 3, il dit ceci aux Philippiens, il présente ce qu'il était, il dit, hébreu, né d'hébreu, quant aux zèles pharisiens, j'étais irréprochable et tout cela. Mais il dit, mais que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, toutes ces qualités qui faisaient ma valeur à l'époque, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Je le regarde comme une perte à cause de la connaissance de Christ. Mais il ne se limite pas là. Il dit, ça c'est ce que j'étais. Mais il dit, mais même maintenant, ce que je suis actuellement, je considère toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ pour que je sois trouvé en lui digne et toutes ces choses-là qu'il est en train de raconter. Il dit, c'est que dans le passé, ce que j'étais, j'ai tout mis de côté pour le Seigneur. Mais je ne me suis pas limité dans ce que j'étais. Même ce que je suis actuellement et ce que j'ai maintenant, ça n'est pas autant de valeur que Christ et ou de connaître Christ. De sorte que tout ce que je suis aujourd'hui, je le considère toujours comme de la boue. Parce que ce qui compte pour moi, c'est de connaître Christ
et d'avancer selon lui. Alors, est-ce que connaître Christ est vraiment ce qui compte le plus dans notre vie? Parce que si ça ne compte pas le plus, c'est qu'on n'est pas encore prêt pour prier et pour vivre le réveil spirituel. Ça commence d'abord par là. Et quand Dieu même veut, lorsqu'il veut commencer, comment je dirais? Lorsque le Seigneur veut nous amener vers le réveil, il commence toujours par susciter dans notre cœur une soif plus grande de consécration. Il faudrait que ça commence d'abord là, dans notre cœur, la disposition du cœur qui va nous pousser à faire le reste. Amen, amen. Deuxième des choses, c'est la persévérance dans la prière. Ça, c'est vraiment, je dirais, comme une suite ou une conséquence de la consécration. Parce que si nous nous consacrons à Dieu et que nous voulons connaître sa volonté, ce désir-là de connaître sa volonté va toujours nous pousser à prier, va toujours nous pousser à le chercher dans la prière. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 14, c'est que tous d'un commun accord, c'est-à-dire les disciples et les autres femmes, la mère de Jésus, ont persévéré dans la prière. Quand ils ont entendu la promesse que Jésus leur a dit, « Attendez, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins », ils n'ont pas croisé les bras, ils sont allés dans la chambre haute et ils ont persévéré dans la prière. Ils se sont mis là, jour et nuit, en train de prier, en train de chercher Dieu, en train de réclamer, dire « Seigneur, nous voulons voir ta promesse accomplie ». Et si nous voulons voir aussi ces réveils spirituels s'accomplir, il faut que nous persévérions dans la prière. Quand nous nous réunissons ensemble, que nous persévérons. Persévérer, ça veut dire, premièrement, prier avec ferveur. Prier avec ferveur. Ou encore dire, prier jusqu'à voir l'accomplissement ou l'exaucement de notre prière. Vous savez, quelquefois, nous n'avons pas l'exaucement de ce que nous demandons à Dieu parce que nous lâchons trop vite. Nous prions aujourd'hui, nous prions des jours, trois jours, tellement qu'on ne voit rien, on arrête par là. Et c'est peut-être ça qui fait que nous n'avons pas l'accomplissement. Parce qu'il y a certaines choses, il faudrait persévérer. Il faudrait que Dieu aussi voie combien nous voulons vraiment que cette chose arrive. Parce que plus une chose est un désir profond de nos cœurs, plus on la prendra avec sa valeur. Plus nous reconnaissons qu'une chose est valeureuse pour nous, on fera tout ce qu'il faut pour la garder. C'est pourquoi même Jésus dit ceci en parlant du royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui, dans son champ, il trouve un trésor. Après l'avoir trouvé, il part, il vend tout ce qu'il a pour garder le seul trésor. C'est-à-dire, il considère que tout ce qu'il possédait avant ne sert à rien parce que je viens de trouver un autre trésor. Donc, s'il n'avait pas assez d'argent peut-être pour acheter les champs, c'est sûr qu'il allait peut-être même s'endetter ou faire tout ce qui était nécessaire pour garder ses trésors. Alors, il faudrait que nous aussi, si réellement nous reconnaissons la nécessité et le besoin du réveil spirituel, que nous persévérions dans la prière. Jusqu'à ce que nous voyons l'exaucement de ces choses. Jusqu'à ce que nous ressentirons dans notre cœur cette ferme conviction que ça y est, ce que nous avons demandé à Dieu est arrivé. Il faudrait persévérer. Entre Actes chapitre 1 et chapitre 2, où nous voyons l'Esprit qui descend sur les disciples, sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, il s'est passé quasiment 10 jours. 10 jours, ils étaient dans le même lieu en train de prier pour la même chose. Je me demande, est-ce que nous sommes vraiment capables de passer 10 jours enfermés en un seul lieu? Prier pour juste une seule chose, pas trois, quatre sujets, là, un seul sujet. Nous sommes là, Seigneur, pour tel sujet. On raconte une histoire d'un homme de Dieu aux États-Unis à une époque où tellement que, en tout cas, il priait pour la même chose que dont nous parlons ces derniers temps, du réveil spirituel. Il regardait la société, comment c'était corrompu. Il voyait la jeunesse, combien les péchés prenaient de plus en plus de l'ampleur. Ça lui faisait mal au cœur. Alors il a commencé à prier, il s'est consacré, il a dit « Seigneur, répands ton esprit, ramène les gens à la repentance, apporte un réveil spirituel. » Tellement que la soif grandissait mais qu'il ne voyait pas ce qu'il demandait, on raconte qu'il s'est enfermé dans sa chambre. Il était marié, il s'est enfermé dans sa chambre. Il a dit « Seigneur, soit je vois l'exaucement de mes prières, soit je meurs dans cette chambre. » Et il s'est enfermé dans sa chambre, il a commencé à prier, il ne sortait pas. Au point qu'après, on raconte qu'après 2 semaines sans manger ni boire, il lui dit, c'est dans sa chambre, sa femme est venue toquer. Est-ce qu'il dit, est-ce que cet homme n'est pas encore mort? Il toque. Son mari lui dit, non, je suis encore vivant, je ne suis pas encore. Il dit, mais tu vas mourir. Il dit, maman, soit je meurs dans cette chambre, soit Dieu exauce à mes prières. Alléluia. Est-ce que sommes-nous prêts à persévérer dans la prière pour réclamer l'accomplissement de la promesse de Dieu? Je ne dis pas que pour nous, ça prendra forcément 14 jours de s'enfermer sans manger ni boire, mais d'abord cette disposition-là de cœur, de dire, Seigneur, je n'arrêterai pas de te chercher, je n'arrêterai pas de prier pour ceci tant que tu ne l'as pas encore accompli. La Bible ne nous dit pas que les disciples ont jeûné ou qu'ils n'ont pas mangé, non. On nous dit juste qu'ils étaient dans un même lieu tous ensemble en train de prier. Le reste, on ne sait pas. On ne sait pas en tout cas, mais cette disposition du cœur d'abord à persévérer dans la prière. Amen. Avant de continuer à l'autre point, je voudrais ajouter un troisième élément que je n'ai pas ajouté le matin, mais pendant que je me préparais pour cet après-midi, j'ai eu à cœur de l'ajouter. Le troisième élément qui nous conduit vers le réveil, c'est la foi. C'est vraiment la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, même les deux choses que j'ai dit au début, ça ne sert à rien. D'abord parce que la première des choses qui nous amène à nous consacrer à Dieu, c'est la foi. C'est puisque nous croyons en Dieu que nous nous consacrons à lui. Ce qui signifie que s'il n'y a pas de foi, premièrement, même la Bible le dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça me donne directement la deuxième raison pour laquelle la foi est indispensable, c'est que sans la foi, il n'y a pas d'exaucement à la prière. Parce que comment tu peux prier quelqu'un alors que tu ne crois même pas qu'il peut récompenser ce que tu lui demandes, qu'il peut t'accorder ce que tu demandes? Comment peux-tu courir vers une personne pour une demande alors que tu sais très bien que tu vas même pas perdre ton temps? Et même Jésus le dit dans 1 Pierre chapitre, plutôt dans Marc chapitre 12, verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, ou en priant plutôt, croyez que vous l'avez déjà reçu, et après vous le verrez s'accomplir. Une manière de nous dire que sans la foi, il n'y a pas d'accomplissement. Si nous voulons voir l'accomplissement de nos prières, il faudra que nous croyons que celui que nous prions va nous accorder ce que nous lui demandons. Et que nous croyons que nous avons déjà reçu ce que nous lui avons demandé. C'est la foi maintenant qui va faire à ce que nous voyons de nos yeux l'accomplissement, et non le contraire. Et non prier, attendre, voir pour croire. Ça ne marchera jamais. Prier, croire que ce que nous demandons va arriver, c'est alors que nous les verrons arriver. Et quand nous les voyons, ça va augmenter encore notre foi pour continuer à prier. Amen. Donc sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il n'y a pas de consécration. Et sans la foi, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas d'exaucement à la prière. Alors, prions aux yeux. Je crois que peut-être si le temps nous permettra, on pourrait prendre 3, 4, voire 5 minutes à prier juste pour dire à Dieu, Seigneur, transforme nos cœurs et donne-nous la foi et toute autre chose. Amen. Alors, le deuxième point où, pour finir cet après-midi, c'est les éléments qui témoignent du réveil. C'est-à-dire, quels sont les effets ou les choses que, lorsque nous les voyons, on peut vraiment dire que, voilà, le réveil est là et nous les vivons. Premièrement, le premier élément qui témoigne du réveil, c'est la puissance du Saint-Esprit qui redescend sur ceux qui ont cru. La puissance du Saint-Esprit qui descend sur ceux qui ont déjà cru. Acte chapitre 2, le verset 1 à 4, ou même Acte chapitre 1, le verset 8, là où Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Jésus s'adressait à ses disciples qui avaient déjà cru en lui et qui avaient décidé de le suivre. Et quand le réveil spirituel de Acte des Apôtres a commencé, ça a commencé quand l'Esprit Saint est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. C'est là que tout a démarré et ça s'est poursuivi jusqu'à la fin du livre des Actes. Et donc, la première manifestation du réveil spirituel, ou de la première chose qui témoigne de cela, c'est cette puissance-là que le Seigneur dépose en abondance sur ceux qui ont cru et sur ceux qui ont demandé avec ferveur que le Seigneur accomplisse cette promesse. Même dans Acte 8, où nous avons lu, Philippe est parti à Samarie, il a prêché l'évangile, et la nouvelle est arrivée jusqu'à Jérusalem, disant que les gens de Samarie ont reçu la parole et ils ont cru au Seigneur Jésus. Et la Bible nous raconte qu'ils ont envoyé, l'église de Jérusalem a envoyé Pierre et Jean pour aller prier afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Pierre et Jean se sont déplacés jusqu'à Samarie. Ils ont imposé les mains à tous ceux qui avaient cru et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc le réveil a continué de la même manière à Samarie aussi, ça a commencé de cette manière. L'Esprit est descendu sur ceux qui ont cru afin que ceux qui ont cru partent aussi annoncer cette bonne nouvelle qu'ils ont reçu. Ça, c'est ce qui témoigne au préalable, au départ. C'est par là que le réveil commence. Le Seigneur prend d'abord ceux qui ont déjà cru en lui, il les remplit de sa puissance pour que par eux, la bonne nouvelle soit encore répandue partout ailleurs. Alléluia.
Donc c'est la puissance du Saint-Esprit qui redescend sur ceux qui ont cru. Sur ceux qui ont cru. Parce qu'en vérité ou en réalité, on ne peut pas parler du réveil sans la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui produit même le réveil. C'est lui qui en est l'auteur, c'est lui qui en est la source, la base, si je dois dire. Que ce soit dans ceux qui ont cru ou dans ceux qui n'ont pas cru, c'est toujours le Saint-Esprit qui est en action. De A à Z, d'un bout à l'autre, c'est lui qui est en action et c'est lui qui manifeste et produit ses réveils spirituels. Il est l'agent producteur ou causal du réveil spirituel. On ne peut parler de cela sans parler du Saint-Esprit. Ce qui fait que, ou ce qui nous amène à dire ce qui suit, c'est que c'est pour nous qui désirons voir le réveil spirituel, l'une des prières que nous pourrons faire au Seigneur ou que nous devrions faire au Seigneur, c'est de dire, Seigneur, répands ton esprit sur nous. Répands ta puissance sur nous, sur nos vies, afin que les vies soient transformées et que Jésus soit glorifié. Afin que les gens sachent que Jésus-Christ est Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. C'est lorsque lui, il descend, qu'il se met maintenant à glorifier Jésus, à mettre cette conviction en nous-mêmes, à nous remplir de puissance pour témoigner avec ferveur que Jésus-Christ est Seigneur. La deuxième de choses, avant de les citer, j'aimerais souligner aussi en passant que la liste n'est pas exhaustive. Donc il n'y a pas que ces deux éléments, mais je crois que ce sont les deux éléments principaux. Et il y a d'autres éléments aussi qu'on ne saura pas citer aujourd'hui, mais je crois peut-être qu'il y aura certaines opportunités que Dieu donnera et il y aura d'autres personnes qui en parleront un peu plus en détail. Alors le deuxième élément qui témoigne du réveil, c'est la repentance ou la conversion ou la transformation radicale de ceux qui n'ont pas encore cru, de ceux qui n'ont pas cru ou de ceux qui n'ont pas cru au départ. Je vais essayer de m'expliquer. Donc la repentance ou la conversion ou encore la transformation radicale de ceux qui n'ont pas cru. C'est que l'Esprit de Dieu commence d'abord par oindre les serviteurs, les consacrer au Seigneur, afin que par eux, l'Évangile soit prêché, Christ soit témoigné à ceux qui n'ont pas encore cru. Et les effets qui continuent dans ceux qui n'ont pas cru, c'est qu'il y a une conversion, il y a une repentance sincère et radicale. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous le montre. Quand vous lisez la suite, après ces événements du verset 1 au verset 4, Pierre s'est levé pour commencer à annoncer l'Évangile. Il a prêché à la foule qui était là, il a prêché. Et la Bible dit que ceux qui entendaient la parole eurent le cœur vivement touché. Et ils demandèrent à Pierre, que devons-nous faire? Et Pierre a continué son message. Et la Bible dit qu'en ces jours, il y eut 3000 hommes qui ont cru au Seigneur, qui ont cru en la parole qui leur a été prêchée. Donc ça a commencé par la plénitude du Saint-Esprit sur ceux qui avaient cru. Et cette plénitude a amené la conséquence suivante, c'est que ceux qui n'avaient pas cru, après avoir entendu les témoignages de Pierre concernant Jésus, ils se sont repentis de leurs péchés et ils se sont convertis, ils sont revenus au Seigneur. Autrement dit, ils ont été transformés dans leur être intérieur, toujours par la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans Jean chapitre 16, le verset 8 à 9, Jésus dit ceci, « Lorsque le Consolateur sera venu, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et le verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en ma parole. Mais puisque vous, maintenant, vous serez là en train de me servir, ils seront convaincus du péché. Et c'est désormais, après avoir été convaincus, ils croiront en cette parole, à cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais finir ce message en disant ceci. Je crois qu'il est peut-être temps que l'Église change un peu de stratégie pour transformer la société dans laquelle elle vit. Je crois que nous qui sommes enfants de Dieu, il est temps de revenir à la stratégie que le Seigneur Jésus nous a donnée dès le départ. Ça veut dire qu'en nous remarquant un problème, n'utilisons pas d'abord notre intelligence. Revenons d'abord vers le Seigneur pour connaître sa volonté et c'est lui qui nous dira comment utiliser notre intelligence pour apporter ces changements-là. Alléluia. Ça veut dire qu'il est temps maintenant que lorsque nous remarquons un problème au milieu de nous, arrêtons d'abord de faire confiance à notre expérience. Revenons vers le Seigneur, mettons nos genoux par terre, prions avec ferveur jusqu'à ce que le Seigneur apporte ses changements. Parce que même Jésus lui-même, il a passé d'abord des temps en train de prier, il est passé dans les déserts, après avoir passé 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire, certainement qu'il était en train de prier, le diable est venu, et la Bible dit qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il est maintenant venu dans la ville pour commencer à apporter les changements ou la solution au problème qui est sûr qu'il avait déjà remarqué au milieu de lui. Alors, à nous d'adopter la stratégie du modèle parfait, qui est Jésus-Christ. Venons vers lui, qu'il traite d'abord notre problème de nous-mêmes. Si nous savons que nous avons besoin de transformation, demandons-lui de nous transformer et enfin de nous rendre capables pour apporter cette transformation vers les autres. Parce qu'en réalité, la société n'est que ce que les hommes qui la constituent sont. Si nous sommes dans une société où il y a beaucoup de voleurs, ça veut dire que les hommes qui constituent cette société sont des voleurs. Si nous sommes dans une société où il n'y a que la corruption qui règne, c'est que les hommes qui constituent cette société sont des hommes corrompus. Alors, s'il faut amener le changement là-bas, nous voulons une société où la paix règne, il faudrait que nous soyons des hommes de paix. Si nous voulons vivre dans une société où c'est la vérité qui triomphe, il faudrait que les hommes qui constituent cette société soient des personnes vraies et qui disent la vérité. Or, pour être des personnes vraies et qui disent la vérité, il faut venir vers celui qui est la vérité, Jésus-Christ lui-même. Il faudra qu'il commence par habiter en nous, par nous transformer. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, il nous a déjà transformés dans notre être intérieur. Mais c'est dans la relation avec lui que nous devons entretenir jour et nuit, que cette transformation continue à aller de gloire en gloire, que nous arrivons chaque jour à la stature parfaite de Christ, que nous soyons transformés chaque jour en la même image que lui. Parce qu'il nous a créés au départ à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas d'abord le visage ou l'aspect physique, mais c'est d'abord le caractère. Il faudrait que le caractère de Dieu soit aussi nôtre. Paul l'exprime autrement en parlant du fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi. Il faudrait que ces choses, pas qu'on les prêche, mais que nous les vivions. Et notre vie sera aussi un message pour les autres. Alors, pendant ces 14 jours, je ne sais pas quel problème vous avez remarqué, que ce soit dans votre propre vie, dans la famille, dans la société, dans l'église et partout ailleurs. Voilà ce que le Seigneur veut nous proposer à faire, ou ce que le Seigneur nous ordonne à faire plutôt. Venons vers lui, invoquons-le, qu'il nous révèle sa volonté et après allons pour faire ce que le Seigneur attend de nous. Parce qu'il a dit à ses disciples, vous connaissez déjà la mission. Vous devez aller et faire de toutes les nations des disciples, mais ne partez pas avant que ce que le Père avait promis n'arrive, à savoir que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais en attendant que la promesse s'accomplisse, il fallait que ses disciples comprennent que pour que cette promesse s'accomplisse, il faut que nous allions persévérer dans la prière. Alors, la promesse de la transformation, du changement, c'est ce que Dieu désire pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Il veut nous transformer chaque jour. Il veut transformer cette société, ces mondes dans lesquels nous vivons. C'est pourquoi Christ est monté à la croix, parce qu'il fallait que cette transformation soit possible. Alors, en attendant que cet accomplissement, cette promesse devienne encore notre partage aujourd'hui, pour que cela, nous puissions le vivre au milieu de nous, il faudrait que nous allions le demander en priant, comme ceux qui nous ont précédés en fait. Amen, amen. Alors s'il faudrait tenter de définir le réveil, je crois que je dirais le réveil, c'est le fait que le Seigneur nous remplit de sa puissance pour témoigner de lui, afin de ramener encore un plus grand nombre vers lui. Amen, amen. Alors j'aimerais juste pendant 2 minutes qu'il nous reste, passer un moment dans la prière, juste pendant 2 minutes. Est-ce qu'on peut s'élever? On va juste prier pendant 2 minutes et finir ce soir. Alors je sais pas comment donner ces sujets. Mais j'aimerais que ce soir, nous puissions d'abord, comme c'est une journée dédiée à la transformation personnelle, que nous puissions d'abord nous-mêmes nous présenter devant Dieu. Avant de dire, Seigneur, utilise-moi pour changer telle ou telle autre personne, pour changer telle ou telle autre chose, commence d'abord par me transformer. Peut-être que tu as un problème encore, peut-être avec le mensonge. Peut-être que tu as un problème encore avec, peut-être avec le vol. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut encore être un problème dans ton cœur, mais chacun sait ce qui dérange encore son cœur. Vous savez quoi? On peut avoir une apparence devant les hommes, mais on ne trompera jamais Dieu. Devant Dieu, pendant que même on veut lui faire croire certaines choses, lui regarde déjà notre cœur. Alors, j'aimerais juste que quelqu'un vienne avec toute la sincérité de son cœur et dire à Dieu, Seigneur, regarde, il m'arrive encore dans des moments difficiles de ne pas apprendre à compter sur toi et de pouvoir courir vers mes propres moyens. Il m'arrive encore, Seigneur Dieu, d'avoir tendance de mentir pour me sortir de certaines situations. Pourtant, tu me dis que tu es puissant et que tu es capable de m'en délivrer. Il m'arrive encore, Seigneur Dieu, quand je suis en manque, de commencer à chercher des stratégies pour voler afin de pouvoir sortir de ses besoins, oubliant que tu es le seul qui pourvoit en réalité à mes besoins. Seigneur, il m'arrive encore, je ne sais pas qu'est-ce qui vous dérange en réalité, mais il est temps pour nous de juste répandre nos cœurs devant Dieu.
Est-ce qu'on peut élever nos voix et parler au Seigneur? Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, il m'est arrivé plusieurs fois d'oublier combien tu es grand. Seigneur, il m'est arrivé plusieurs fois d'oublier, Seigneur Dieu, que le seul qui est capable de me sortir de toutes choses, c'est toi. Seigneur, il m'est arrivé plusieurs fois d'oublier que c'est toi qui pourvois à tous mes besoins. J'aimerais d'abord te demander pardon. Seigneur, avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su compter sur ta force. J'aimerais demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su compter sur ta grâce. J'aimerais demander pardon, éternel Dieu, pour toutes les fois où, Jésus, j'ai voulu faire confiance à mes expériences au lieu de connaître quelle était ta volonté. Seigneur, je me suis borné à ce que l'école m'a appris. Je me suis borné à apprendre ce que j'ai peut-être appris dans la société, au lieu de revenir vers toi qui a toute la connaissance et de recevoir la révélation que toi tu voulais me donner. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, cet après-midi, je crie à toi, ne me prive pas ta grâce. Je crie à toi, fais-moi grâce. Je crie à toi, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Seigneur, je te prie ce soir, avant d'aller plus loin, avant que je ne sois cet intercesseur, avant que je ne sois celui qui persévère dans la prière, afin de voir le réveil spirituel autour de moi, je veux que ça commence dans mon cœur. Seigneur, je reconnais que depuis un moment, mon amour pour toi a diminué. Je reconnais depuis un moment que j'ai commencé à plus faire confiance au bien que j'avais. Je commençais à plus faire confiance, éternel Dieu, à tout ce que tu m'as donné, au lieu de te faire confiance à toi. Je commençais à plus faire confiance aux œuvres que je faisais, au lieu de faire confiance, éternel Dieu, à toi. Au lieu de m'attacher encore fortement à toi, éternel, j'ai voulu commencer à faire confiance, éternel, à mes expériences du passé. Or, toi, tu es le Dieu qui veut faire quelque chose de nouveau. Or, toi, tu es le Dieu qui a toujours une stratégie nouvelle pour chaque circonstance. Et même lorsque le défi paraît semblable, éternel, tu n'as pas toujours les mêmes stratégies. Oh Jésus, nous crions à toi ce soir. Viens nous délivrer de toutes ces faiblesses. Seigneur, il est écrit que tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous relève. Il est écrit que cette fois le juste tombe, mais le Seigneur le relève. Seigneur, viens nous relever de nos faiblesses et rends-nous forts pour ne plus retomber dans ces mêmes faiblesses. Rends-nous forts pour ne plus retomber dans ces mêmes péchés. Seigneur, viens nous délivrer de tous nos péchés. Viens nous délivrer de toutes ces choses, éternel Dieu, qui met une barrière, un obstacle entre toi et nous, qui fait que nous n'allions pas, Seigneur Dieu, totalement, pleinement dans l'intimité de ta présence. Viens nous délivrer de ces choses éternelles qui nous empêchent à nous consacrer totalement à toi. Viens nous délivrer, Seigneur Dieu. Viens nous délivrer de la convoitise charnelle. Viens nous délivrer de la convoitise des yeux. Viens nous délivrer de la jalousie. Viens nous délivrer de l'orgueil. Viens nous délivrer de la calomnie. Viens nous délivrer, Seigneur, de toutes ces choses mauvaises, éternel Dieu, qui s'attachent si facilement à nous. Oh, nous ne voulons pas être comme les Galates, où Paul dit aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a arrêté? Est-ce que c'est normal que vous commenciez par l'esprit et que vous finissiez par la chair? Seigneur, nous ne voulons pas commencer selon l'esprit et finir par la chair, non. Puisque nous avons commencé par l'esprit, nous voulons finir par l'esprit, Jésus. Nous voulons finir par l'esprit. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce, oh Dieu de gloire. Délivre-nous de toutes nos iniquités et rends-nous semblables à toi, éternel. Rends-nous semblables à toi, Jésus. Rends-nous semblables à toi, Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être, Seigneur Dieu, de personnes nouvelles. Oh, Seigneur, comme Saül, alors qu'on lui disait, lorsque tu partiras, tu trouveras une troupe de prophètes, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Seigneur, j'aimerais quitter ces lieux étant changé à un autre homme. J'aimerais quitter ces lieux étant changé à un autre homme. Je me rappelle encore de Pierre, lorsqu'on t'a arrêté et que tu étais encore vivant physiquement, il t'a régné devant trois personnes. Il t'a régné devant une femme, il t'a régné devant quelques personnes. Mais lorsqu'il était saisi par l'Esprit de Dieu, il a été complètement changé. Il pouvait parler de toi avec assurance devant une foule. Il pouvait parler de toi avec assurance devant les Sanhédrin. Il pouvait affronter tous les dangers sans aucune crainte, éternelle. Donne-moi, éternel, d'être transformé dans mon cœur et dans mon être intérieur. Brise dans mon
mon cœur cette honte, des fois cette honte que j'ai, Père, de parler de toi même à un ami qui est juste là à côté de moi. Brise en moi, Seigneur, cette peur de témoigner de toi, même devant ses collègues de l'école, ses frères, ses collègues avec qui je partage le même banc, avec qui je passe beaucoup de temps, mais que je n'ai pas encore su lui parler de toi. Seigneur, aide-nous, peut-être dans le travail, dans la société, dans la famille, on a remarqué des problèmes, on connaît même la solution, mais des fois on a peur de ce que les autres diront de nous. Des fois on a peur du regard des autres. Délivre-nous de la peur du regard des autres. Délivre-nous de la peur de ce que les gens diront. Délivre-nous de la peur, éternel Dieu, d'être mal compris des hommes. Mais donne-nous cette ferme assurance de parler de Jésus. Donne-nous cette ferme assurance d'apporter la solution à ce monde. Et ce n'est ni par puissance, éternelle, ce n'est ni par force, mais c'est par ton esprit seul. Alors ce soir, viens nous transformer. Avant de faire de nous des instruments de transformation, viens nous transformer. Avant de faire de nous des instruments de changement, viens nous changer, éternel. Nos vies ont besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Seigneur, nous venons répandre nos cœurs au-devant de toi. Seigneur, comme l'argile devant le potier, ô Dieu, donne-nous la forme qui te plaît, Jésus. Donne-nous la forme qui te plaît. Nous voulons rester au pied de ta croix parce que c'est là, éternel Dieu, que nous trouvons notre transformation. C'est là que nous tirons la source de notre changement. Seigneur Dieu, donne-nous la forme qui te plaît. N'est-il pas écrit que nous sommes ton ouvrage? Seigneur, nous t'appartenons. Donne-nous de te ressembler jour et nuit. Donne-nous de te ressembler jour et nuit. Il se peut que quelqu'un n'aura pas l'opportunité ou l'occasion d'ouvrir la Bible en papier comme nous autres. Il se peut que quelqu'un, quelque part, n'aura que notre vie comme témoignage de ce que Jésus est capable de faire. Il se peut que quelqu'un, Seigneur Dieu, quelque part dans cette ville, dans ces pays ou dans le monde entier, n'aura que notre vie comme seule preuve que Jésus existe. Alors Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas que ton nom soit insulté à cause de nous. Nous ne voulons pas faire partie de ces peuples qui t'honorent de l'œuvre seulement, mais dont le cœur est éloigné. Nous voulons t'honorer des lèvres et des cœurs. Nous voulons t'honorer de tout notre cœur, de toute notre âme. Donne-nous de marcher dans l'intégrité. Donne-nous d'être ces hommes et ces femmes qui craignent l'Éternel. Oh Seigneur, tu as dit de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, un homme fidèle, un homme craignant l'Éternel. Seigneur, donne-nous de marcher de la même manière. Donne-nous de t'aimer du plus profond de nos cœurs. De marcher et de demeurer dans l'intégrité, Jésus, et de te craindre, Seigneur. Dans cette génération où la crainte de l'Éternel disparaît, Seigneur, nous voulons être de ces 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous voulons être de ces personnes qui ont accepté de rester fidèles. Seigneur, nous voulons être comme Élie, même quand nous croyons que nous sommes restés seuls et que le monde a tué tous tes serviteurs. Donne-nous de garder la foi et de tenir ferme dans la foi. Parce que le chemin, c'est sûr, le chemin est resserré. La porte est étroite, éternelle, mais tu es là pour nous soutenir. Mais tu es là pour nous soutenir. Donne-nous de toujours croire en tes promesses. Donne-nous de toujours croire en ta présence. Tu as dit que je suis avec vous jusqu'à la fin. Donne-nous de croire en ta parole, peu importe le temps, les circonstances. Même quand dans notre cœur nous ne sentirons pas ta présence, donne-nous de croire que tu es là. Même quand la réalité nous fera croire que nous sommes seuls, donne-nous de croire à ce que tu as dit, parce que ce que tu as dit, c'est la vérité, que tu es toujours avec nous, que tu demeures en nous et que tu seras éternellement avec nous. Donne-nous de croire en tes promesses. Et Seigneur Dieu, donne-nous aussi de comprendre qu'alors que nous croyons que nous sommes seuls, qu'en réalité nous ne sommes pas seuls, mais tu t'es réservé des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ont accepté de rester fidèles. Garde-nous fidèles à toi, Jésus. Seigneur, nous ne faisons que de commencer l'année. Il y aura certainement beaucoup de défis. Garde-nous fidèles à toi. Seigneur, tant que tu n'es pas encore venu nous prendre, donne-nous de demeurer fidèles à toi. Donne-nous de marcher toujours dans la crainte de ton nom éternel. Seigneur Dieu, donne-nous de marcher dans la crainte de ton nom. Et toi qui as visité ton peuple dans les temps passés, viens nous visiter, nous qui sommes ton peuple dans les temps présents. Toi qui as visité tous ceux qui ont crié en toi dans les temps passés, visite-nous, nous qui avons crié en toi dans ces temps si difficiles, dans ces temps si compliqués, dans ces temps où le monde est si corrompu. Viens nous visiter, Seigneur, et accomplis ce que tu as promis depuis les temps anciens, éternel Dieu. Accomplis ce que tu as promis depuis les temps anciens, éternel. Laisse que la consécration demeure notre partage. Donne-nous de marcher dans une consécration toujours plus grande, éternel. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Éternel. Nos vies ont besoin de toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour. Oh oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, dans les bons, le mauvais jour. Oh, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus. Allons tous ensemble, la voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis encore une fois la voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds. Oui, Seigneur, me voici. Vers fidèle, me voici. Je suis. Alors déclarons-le de tout notre cœur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Encore une fois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, dans les